Chapitre 49. Ces quelques fleurs en souvenir du temps passé. Je suis entrée chez Sacha. J'ai ouvert le sachet de thé, j'ai fermé les yeux et j'ai respiré son contenu. Est-ce que j'allais revenir à la vie dans cette maison de cimetière? C'était la deuxième fois que je pénétrais à l'intérieur et déjà je sentais à nouveau cette odeur qui m'extirpait presque de force de la noirceur dans laquelle j'avais un semblant de vie depuis la mort de Léo. Comme Sacha l'avait indiqué dans sa lettre, le sachet de thé était posé sur l'étagère jaune, à côté des théières en fonte. Il avait apposé une étiquette, comme sur les cahiers d'enfants, « Thé pour Violette ». Mais ce qu'il n'avait pas écrit dans sa lettre, c'est que sous le sachet de thé, il y avait aussi une enveloppe Kraft à mon nom. Elle n'était pas cachetée. J'ai découvert qu'il avait glissé plusieurs feuilles à l'intérieur. Dans un premier temps, j'ai cru que c'était la liste des personnes récemment décédées et que le Toussaint écrit sur l'enveloppe pouvait correspondre à des tombes à fleurir pour la Toussaint. Ensuite, j'ai compris. Sacha avait réuni les coordonnées de tout le personnel présent au château de Notre-Dame-des-Prés dans la nuit du 13 au 14 juillet 1993. La directrice, Edith Croquevieille, le cuisinier, Swann Letellier, la dame de service, Geneviève Magnan, les deux monitrices, Héloïse Petit et Lucie Lindon, l'homme d'entretien, Alain Fontanelle. À part la directrice, c'était la première fois que je découvrais le visage de ceux qui avaient vu ma fille pour la dernière fois. On avait parlé du drame au journal télévisé de 20h, sur toutes les chaînes. On avait montré une photo du château de Notre-Dame-des-Prés, du lac, des poneys. Et on avait rabâché les mêmes mots-clés. Drame, incendie accidentel, quatre enfants qui avaient trouvé la mort, colonie de vacances. Les enfants avaient fait la une du journal de Saône-et-Loire pendant plusieurs jours. J'avais survolé les articles que Philippe Toussaint m'avait rapportés le lendemain de l'enterrement. Des portraits des enfants, des sourires pleins de trous, des dents que la petite souris avait emportées, la chanceuse. Nous, les parents, nous n'avions plus rien. J'aurais donné ma vie pour savoir où était son terrier, récupérer les quenottes de Léo, récupérer un peu de son sourire. Mais dans ces articles, aucune photo du personnel de l'établissement. La directrice, Edith Croquevieille, avait des cheveux gris ramenés en chignon, elle portait des lunettes et souriait sagement à l'objectif. On sentait que le photographe lui avait donné ses indications. « Souriez, mais pas trop, il faut qu'on vous trouve sympathique, en confiance et rassurante. » Je connaissais ce cliché. Il était au dos de la brochure publicitaire que m'avait tendue la mère Toussaint des années plus tôt. Cette brochure remplie de ciel bleu, un peu comme dans celle des pompes funèbres générales. Seul notre sérieux ne prend jamais de vacances. Combien de fois m'en suis-je voulu de ne pas avoir su lire entre ces lignes? Sous le portrait d'Edith Croquevieille, son adresse était indiquée. La photo de Swann Letellier était un photomaton. Comment Sacha l'avait-il récupéré? Comme pour la directrice, Sacha avait noté l'adresse du cuisinier. Mais ça ne semblait pas être son adresse personnelle. Le nom d'un restaurant à Mâcon, le terroir des souches. Swann devait avoir environ 35 ans. Il semblait maigre, les yeux en amande, beau et inquiétant à la fois. Une drôle de tête, des lèvres fines, un regard sournois. La photo de Geneviève Magnan, la dame de service, avait dû être prise au cours d'un mariage. Elle portait un chapeau ridicule comme en portent parfois les parents des mariés. Elle s'était trop et mal maquillée. Geneviève Magnan devait avoir une cinquantaine d'années. C'est sans doute cette petite bonne femme boulotte, engoncée dans son tailleur à fleurs bleues, qui avait servi son dernier repas à Léo. Je suis sûre que Léo lui avait dit merci parce qu'elle était bien élevée. J'avais appris ça à Léo. Cela avait été ma priorité, toujours dire bonjour, au revoir, merci. Les deux monitrices, Héloïse Petit et Lucie Lindon, posaient ensemble devant leur lycée. Sur la photographie, elle devait avoir 16 ans. Deux jeunes filles malicieuses et insouciantes. Avait-elle dîné à la même table que les enfants? Au téléphone, Léo m'avait dit qu'une des monitrices me ressemblait trop. Pourtant, ni Héloïse ni Lucie, blonde aux yeux bleus, ne me ressemblait. Le visage de l'homme de l'entretien, Alain Fontanelle, avait été découpé dans un journal. Il portait un maillot de footballeur. Il devait poser, accroupi parmi d'autres joueurs, devant un ballon. Il avait un faux air d'Eddie Mitchell. Toujours une adresse griffonnée à l'encre bleue sous chaque portrait. Celle de Geneviève Magnan et Alain Fontanelle était identique. Et toujours la même écriture que sur l'enveloppe du colis contenant la plaque funéraire, sur la lettre et les étiquettes des boîtes de thé. Mais qui était ce gardien de cimetière qui m'avait attiré jusqu'ici? Et pourquoi? Je l'ai attendu, et il n'est pas rentré. J'ai mis le thé dans mon sac, ainsi que l'enveloppe contenant les portraits et les noms de ceux qui avaient été présents ce soir-là. Et j'ai fait le tour du cimetière pour trouver Sacha. J'ai croisé des inconnus qui arrosaient des plantes, des promeneurs. Je me suis demandé qui était enterré ici pour eux. J'ai essayé de deviner en regardant leur visage. Une mère? Un cousin? Un frère? Un mari? Au bout d'une heure à arpenter les allées à la recherche de Sacha, je me suis retrouvée dans le carré des enfants. J'ai longé les anges et je suis allée jusqu'à la tombe de Léo. J'ai revu le prénom de ma fille sur la stèle, ce nom que j'avais cousu à l'intérieur du col de ses vêtements avant de les ranger dans la valise. C'était dans le règlement, sinon la direction de la colonie déclinait toute responsabilité en cas de vol ou de disparition. Un peu de mousse commençait à apparaître sur le marbre depuis la dernière fois, dans un carré d'ombre. Je me suis agenouillée pour frotter les résidus du revers de ma manche.